Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Quelle solution face aux violences faites aux femmes et aux filles? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et je rappelle que c'est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC, financé par l'USAID. Et nos invités sont Madame Mariko Korotumutera, présidente de l'ONG Femmes et Développement FEDEV, Madame Togo Sitansissé, directrice adjointe du programme d'engagement civique PEC, et Madame Maïmouna Djongunda Dambélé, expert sur les questions liées au genre. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, à vous, Madame Maïmouna Djongunda Dambélé, quelle est la situation des violences faites aux femmes et aux filles au Mali aujourd'hui?
Merci beaucoup, Monsieur Touré, pour cette question. Alors, au Mali actuellement, nous vivons les violences faites aux femmes de façon vraiment réelle tous les jours. Avant, on n'en parlait pas assez. De plus en plus, les voix se libèrent pour parler de ces situations-là. Et de plus en plus, les médias en parlent. Alors, la situation actuelle, c'est que nous sommes encore frappés par ces violences faites aux femmes. Je parlais d'une étude tout à l'heure du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui avait pour but d'identifier les formes de violences faites aux femmes. Et cette étude, c'était en 2002, a identifié une vingtaine de violences faites aux femmes. Et cette vingtaine de formes va se mettre dans les violences physiques, dans les violences psychologiques et émotionnelles, dans les violences économiques, les violences institutionnelles et aussi dans les violences économiques. Alors, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des changements, il y a eu des avancées. On a eu des acquis pour le combat des droits des femmes. Mais on en a aussi perdu avec la crise, notamment avec l'apparition de nouvelles formes de violence que nous avons eues dans les régions vraiment touchées par cette crise-là. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le Mali a vraiment avancé sur cette question. Et les violences, on les retrouve à deux niveaux. On les retrouve au niveau communautaire et donc dans les interactions que les hommes, les femmes des différentes communautés ont ensemble. Mais on les retrouve aussi à un autre niveau qui est institutionnel, au niveau de l'État. Qu'est-ce que l'État fait? Parce que de par ses actions ou ses inactions, il peut aussi contribuer à soit renforcer des politiques ou des lois discriminatoires, soit en restant silencieux sur des problèmes qui mériteraient justement qu'il y ait des réponses institutionnelles comme des lois. Donc actuellement au Mali, nous avons ce problème-là au niveau communautaire, mais nous avons aussi ce problème au niveau institutionnel par rapport aux violences faites aux femmes.
D'accord. Madame Mariko Korotumutera, quelle analyse faites-vous de la situation?
Merci, Monsieur Touré. Donc, je rebondis un peu sur les dits de l'experte de la question. C'est vrai qu'au Mali, nous vivons diverses formes de violences, mais moi, j'aimerais m'appesantir sur les violences faites sur les petites filles en milieu scolaire. Mais de façon générale, il faut reconnaître que le Mali, comme beaucoup d'autres pays africains, notamment musulmans, est confrontés plutôt à des stéréotypes qui font que nous avons beaucoup de mal à avancer, comme l'a dit l'experte, soit par manque de volonté de l'État, soit par méconnaissance pure et simple des dispositions prises par l'État qui auraient pu, dans un cadre normal, faire avancer les choses.
D'accord. Madame Togo Sitan.
Pour ma part, je sais que, comme je vais reprendre la même chose que mes sœurs, la question de violence au Mali est une réalité, malheureusement et très malheureusement, et à tous les niveaux. Et le problème, il est très complexe. Et donc, il faut l'aborder, comme je disais tantôt, d'une manière multidimensionnelle, parce que les types de violences sont tellement variés et tellement disproportionné parfois qu'il faut vraiment des mesures concrètes et des mesures concertées et coordonnées des différents acteurs pour pouvoir aborder la question des violences dans notre pays qui est le Mali. Donc pour revenir au programme que je gère, qui est le programme d'engagement civique, Nous travaillons avec... nous avons une composante genre dans le programme. Mais puisque nous sommes un programme de gouvernance et d'engagement civique, nous renforçons les capacités de nos partenaires afin qu'eux renforcent les capacités des organisations communautaires de base qui ont en charge un peu la gestion de l'école, telles que les comités de gestion scolaire, les associations de mères d'élèves, les associations de parents d'élèves, pour aussi non seulement gérer l'école, mais qui parle de gestion de l'école parle aussi de ces questions de violence. Parce que quand une école est bien gérée, ce sont des questions qui ne se posent plus au niveau de ces écoles-là. Parce que ce qui est écœurant, c'est que les petites filles aient peur d'aller à l'école, de peur de se faire violenter, soit en cours de route, soit par l'enseignant qui est censé le protéger un peu, en tout cas quand il est au milieu scolaire, ou par ses amis qui le harcèlent ou qui la harcèlent. Moi, je pense que ça, ça fait partie des causes de déscolarisation ou des causes d'abandon de l'école par les filles, mais malheureusement, qui ne sont pas très, très, très bien dénoncées.
D'accord. Maïmouna Diongda Dambélé, généralement, quand est-ce que ces violences commencent?
Alors, disons que ces violences commencent dans la famille et dès la naissance des enfants. Comme je le disais, il y a comme une sorte d'accord, de contrat tacite entre les parents et la communauté, entre les parents et la société. Dès que l'on est, que l'on soit fille ou que l'on soit garçon, déjà on commence à définir notre avenir. On commence à définir les habits que nous devons porter, les couleurs d'habits que nous devons porter, les activités que nous devons mener, comment nous devons être, comment nous devons parler. Et donc, il y a toute cette éducation-là dans la société qui crée déjà des différences. Et très malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est égalitaire. C'est quelque chose qui vient donner un rôle plus important aux garçons, en tout cas en le plaçant devant à une position de supériorité. Et à la fille, on lui confère plutôt un rôle d'accompagnatrice. Elle doit accompagner l'autre à se réaliser. Et donc, dans certaines familles, vous verrez facilement les parents dire aux garçons qu'ils doivent se battre, qu'ils doivent se débrouiller parce qu'ils sont appelés à prendre une famille en charge. Par contre, aux filles, on leur dit qu'elles doivent apprendre à faire la cuisine, elles doivent apprendre à gérer une famille, parce que ça, c'est leur rôle futur, c'est ce que la société attend d'elles. Et comme je le disais tout à l'heure, même dans les bénédictions, même quand les filles à la maison apporte de bonnes notes, la bénédiction qu'on leur fait, toi tu es vraiment une bonne fille, que Dieu te donne un bon mari. Donc déjà là, dans nos sociétés au Mali, qui sont fortement patriarcales, on crée une différence et on contribue à créer des relations inégalitaires entre les garçons et les filles, en donnant ce rôle aux garçons d'éduquer les filles, en donnant ce rôle aux garçons de surveiller les filles, comme si elles n'étaient pas des aides humains à part entière, capables de raisonner et de prendre des décisions. Donc c'est quelque chose qui commence déjà dès le bas âge dans nos familles et ça dépend de l'éducation que nous donnons à nos enfants et de comment nous percevons leur futur dans la société et leur apport.
Mais les parents donnant ces conseils, peuvent-ils ne pas vouloir le bien de leurs enfants, que ce soit filles ou garçons?
Moi je pense que les parents veulent toujours le bien de leurs filles. Ce sont juste des constructions sociales qui existent. Et on ne se rend pas compte, même souvent, en tant que personne ayant étudié et même ayant beaucoup travaillé sur les questions de genre, on se retrouve à renforcer les stéréotypes. Ce sont des constructions sociales qui sont très lourdes, qui existent vraiment. Et ces personnes-là ne sont pas... Enfin, les familles, les parents qui disent ça ne sont pas de mauvais parents. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui ont été éduqués dans ce sens-là, qui ont reçu cela. Et peut-être ils n'ont pas cette perception ou l'analyse de se dire que ce que je dis à ma petite fille aujourd'hui, c'est ce qui peut définir son demain. Quand je dis par exemple à ma fille que sa plus noble aspiration doit être de se marier, je n'envisage pas forcément que son activité favorite ce sera de se coiffer, se maquiller et apprendre à bien marcher plutôt qu'à avoir de bonnes notes à l'école ou à envisager apprendre dans l'avenir. Donc les gens ne se disent pas toujours ça parce que ce sont des prérequis, ce sont juste des choses dont nous avons hérité et que nous voulons perpétuer. Mais lorsque on a des discussions et que les gens se rendent compte qu'en réalité, ce que nos enfants deviennent demain, c'est nous qu'ils construisons, ils commencent justement à déconstruire ces mythes-là autour des relations sociales, autour des rôles, des droits et des opportunités que les filles et les garçons doivent avoir.
D'accord. Madame Marico, de quoi les filles sont-elles victimes en milieu scolaire?
Alors, merci, mais avant de répondre à la question, j'aimerais juste dire quelques mots.
Allez-y.
Sur les constructions sociales, justement, qui font que les filles maliennes comme les filles africaines ne se sentent pas légales des hommes. Le fait que, depuis leur naissance, on leur met dans la tête... Et psychologiquement que le garçon est meilleur ou bien le garçon est celui-là qui doit être en contact avec l'extérieur et celui-là qui doit être l'homme cultivé, celui qui doit amener le prix de l'économie, etc. Autant ce sont, à mon avis, des réalités culturelles chez nous, autant aujourd'hui, je me dis que on vit pleinement une contradiction terrible, parce que au Mali, si je prends l'exemple, même dans les villages les plus reculés, ce n'est plus le garçon qui fait tout pour la famille, ce n'est plus le garçon qui nourrit la famille, c'est aussi les filles. Ça me fait penser. Aux saisonnières qui viennent à Bamako ou dans les capitales régionales pour travailler peut-être 9 mois sur les 12 et rentrer à la maison. En réalité, ce sont ces filles aujourd'hui qui majoritairement prennent en charge leur famille. Pour la simple raison que si une fille d'une famille a la chance de venir à Bamako pendant la saison des pluies, alors le papa, il exige que la maman de la fille en question apporte la contrepartie de sa fille qui n'est pas au champ. Donc, la fille envoie son salaire qui la représente, en fait, dans le champ. Donc, elle investit ce qu'elle gagne. Donc, ça veut dire que c'est des réalités d'antan, mais aujourd'hui, qui ne tiennent plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'on reste toujours avec ces stéréotypes-là qui font que, voilà, il y a les malentendus, etc. Moi, je pense qu'on se plaît là-dedans. Autant on se plaît là-dedans, mais autant aussi je me pose la question, est-ce que on peut qualifier ces cas-là précisément de violence, des violences faites aux femmes? Je pense que c'est une injustice. Je pense que c'est de sous-estimer la fille parce que j'ai été élevée dans une famille comme telle et j'aimerais que ma fille, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut peut-être essayer de scinder un peu. Ça me ramène à la question de la violence. Moi, je pense qu'il y a des cas de violence qui sont d'actualité et qui causent beaucoup de tort aujourd'hui à la société. Ces cas de violence, c'est quoi? À ma grande surprise, c'est les conclusions d'une étude qu'il a révélée, disons. Et c'est une étude que j'ai conduite moi-même à l'Interfleuve, Djéné Massina Nyono. Et j'ai été surprise par les mères de famille qui, au lieu de répondre, aux questions que je leur avais posées, parce que c'était tout un autre sujet, m'ont ramené sur un terrain glissant, sur un sujet qui les préoccupait. Et ce sujet-là, c'était quoi? C'est la déscolarisation de leur fille. Je reprends textuellement ce qu'une femme m'a dit. Elle m'a dit, si on ne fait rien, si rien ne se fait d'ici quelques années, vous savez que l'Interfleuve, c'est le lieu des conflits intercommunautaires au Mali. Tout le monde le sait. Mais dans les années à venir, vous pouvez vous assurer que cette question de violence faite aux filles en milieu scolaire et dans les familles d'accueil, elle a dit précisément dans les familles d'accueil, sera le sujet d'actualité pour les conflits intercommunautaires. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Et quand elle a dit, toutes les autres femmes, c'était lors d'un focus group, ont tous d'un signe de la tête, ah oui, vraiment. C'est comme si c'était un grand ouf de soulagement. Alors j'ai dit, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Elles ont entrepris de m'expliquer. Elles me disent, vous savez que la couverture scolaire dans notre zone est déplorable. Nos enfants, à partir de la troisième année, pour certains, à partir de la quatrième année, et pour la majorité, à partir de la sixième année, doivent changer de village. Elles doivent quitter leur famille pour rejoindre la commune, pour pouvoir aller à l'école. Alors, puisque l'État n'a plus les moyens de tenir les internats, D'ailleurs, les internats au niveau primaire, ça n'a jamais existé au Mali. Je sais qu'il y avait les cantines scolaires dans les temps sous Modibo, si je me trompe. Donc, les cantines scolaires n'existant plus, qu'est-ce que l'administration fait et qu'est-ce que les familles font? C'est de trouver des familles d'accueil pour ces petites filles. Et malheureusement, ces familles d'accueil, qui dans le temps étaient une seconde famille pour les enfants, garçons et filles, et particulièrement pour les petites filles, avant, si on le faisait, on se disait c'est à 100% sûr que la petite fille bénéficiait des mêmes types d'éducation dans cette famille d'accueil que dans sa famille paternelle. Mais qu'est-ce qui se passe, elles ont dit? Aujourd'hui, nos filles dans les familles d'accueil sont agressées. Si ce n'est pas par les chefs de famille, c'est par les enfants du chef de famille ou simplement par d'autres élèves qui sont accueillis par cette famille d'accueil.
Agressés
sexuellement. Okay. C'est des filles qu'on arrive à tromper. Et elles ont ajouté, nos filles, nous envoyons nos filles à l'école dans la commune, nos filles nous reviennent enceintes. Je vous assure que j'avais la chair de poule. J'étais très perturbée. Perturbée pour deux choses. Perturbée pour ces petites filles, mais perturbée aussi de voir jusqu'à combien le Mali profond est en train de se perdre en termes d'éducation, en termes vraiment de dignité humaine, simplement, de dignité humaine. Et quelqu'un envoie sa fille chez toi, une petite fille de moins de 15 ans. Je me posais la question, comment cette fille peut être engrossée par un chef de famille, par le fils du chef de famille, qui devrait considérer cette fille comme sa propre fille? Le garçon ou les garçons qui devraient considérer cette fille comme leur propre petite sœur, ou d'autres, simplement d'autres garçons, j'ai dit, ça c'est extrêmement grave. Donc, à mon avis, ça c'est des cas de violence. Je parle sous le contrôle de l'experte. Je pense que il faudra peut-être approfondir la recherche et créer rapidement un cadre pour que ce problème-là ne prenne pas de l'ampleur. Nous, à notre petit niveau, nous avons un projet actuellement avec PC Mali, financé par l'USRD.
Nous allons en parler tout de suite pour les solutions. D'accord. Alors, Madame Togo, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les filles, les femmes également, n'ont pas leur part de responsabilité dans cette situation? Elle vient soulever tout de suite la question de grossesse, par exemple.
Alors, je pense que déjà, il faut arrêter de revictimiser les victimes. Parce qu'à chaque fois qu'une femme est victime de violence, on la traite d'abord comme responsable de cette violence-là. Je pense que le fait d'être fille ne donne aucun droit à ce tuteur-là d'engrosser la petite, parce que tout simplement, c'est une fille où elle s'est retrouvée. Et c'est ce qui est désolant, parce que quand c'est la personne qui est censée te protéger, censée te donner à manger, qui profite de cet état de faiblesse, entre griffes, pour te faire des choses dont tu n'es pas consentante, moi je pense que c'est pas normal. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse expliquer les cas de violence par la responsabilité des femmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour être? Comment on peut expliquer? Qu'est-ce qui explique la violence faite à une femme? Je ne vois vraiment pas d'explication fiable, d'explication tout simplement pour dire à cause de ça j'ai fait ça. Frapper une femme, quel que soit ce qu'elle a fait, je pense qu'on peut communiquer. On peut s'asseoir, communiquer, discuter. Ce qui me fait mal, je le dis. Ce qui n'est pas acceptable pour moi, je le dis. Mais je ne montre pas mes muscles parce que tout simplement, je pense que cette femme ou cette fille relève de moi et que j'ai tous les droits sur cette personne, y compris le droit de vie et de mort. Ce qui n'est pas exact et qui malheureusement continue encore à sévir dans ce pays aujourd'hui.
Toujours en milieu scolaire, il y aurait certaines filles qui seraient victimes également de violences de la part des enseignants. Est-ce que vous avez écho de ces situations?
Bon, ça se dit. Ça se dit beaucoup. Qu'en milieu scolaire, la plupart des violences, c'est fait de la part des enseignants sur les petites filles. Ça se dit même en milieu universitaire. Quand on dit les notes, sexe pour les notes, je ne sais même pas, il y a un terme comment ils disent ça, je pense. les notes sexuellement transmissibles, je pense que c'est pas acceptable. Comment, en même temps que nous faisons la promotion de la scolarisation des filles, en même temps que on fait des lois maintenant pour le quota de représentativité des femmes, parfois tu te retrouves dans des structures où toi-même tu veux avoir des femmes, il n'y a pas de femmes. Si on continue à leur faire violence, il y en a qui ne vont pas accepter. Ceux qui n'acceptent pas, malheureusement, se sentent obligés d'abandonner l'école à un certain moment donné. Donc, de rupture en rupture, on se retrouve. Après, on dit non, les femmes ne sont pas capables, elles ne sont pas à la hauteur, ce qui n'est pas vrai. Essayons de donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes et que les hommes arrêtent de faire ces violences-là en milieu scolaire aux filles, qu'on leur laisse étudier. Le fait d'être fille n'est pas un péché. Le fait d'être fille ne donne strictement aucun droit à un homme de faire quoi que ce soit qui n'intéresse pas la fille. Après, il y a des cas de consentement entre majeurs, pour le cas de la sexualité, mais la plupart des violences sexuelles en milieu scolaire sont faites parce que les filles se sentent en position de faiblesse, parce que si c'est l'enseignant, voilà, c'est moi l'enseignant, si soit tu donnes ça ou tu n'as pas ça, soit c'est entre même élèves, parfois c'est même pas les enseignants, c'est entre élèves. Il y a eu des cas de viol. Récemment, j'ai appris que dans une école près de Prosper, lycée Prosper, je ne sais plus, j'ai vu sur Internet encore une fois, je ne sais pas le fondement, on viole les petites filles dans les écoles comme ça. Pour quel droit? Comment vous expliquez ça? Parce qu'on va me dire, non, la fille, elle portait une jupe courte. Mais nos mamans, là, peut-être nos arrière-grand-mères ne s'habillaient pas, elles portaient, je ne sais pas le nom, de cache-sexe. Elles portaient des cache-sexe. Les seins étaient nus. Non, à l'époque, mais il n'y avait pas toutes ces questions de violence. On ne les violait pas parce qu'elles avaient le sein nu. On ne les réprimandait pas parce qu'elles avaient le sein nu. Mais il suffit qu'une fille se maquille aujourd'hui, même dans la rue, que les gens commencent à siffler et qu'ils commencent à t'aborder de façon vraiment inappropriée parce que tout simplement, tu es coquette, parce que tout simplement, tu as décidé d'être cet être-là. Tu veux être comme ça, rien que le fait de s'affirmer, ça devient un problème pour la société et ça devient un problème pour ces hommes qui ont du mal à contenir leur pulsion sexuelle et qui pensent que tout est permis et qui abordent ces filles-là tout simplement parce que voilà, je me crois tout permis. Et moi, je veux vraiment interpeller les autorités sur ces questions-là pour dire franchement, je sais qu'il y a eu beaucoup de chemin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore des choses à faire sur ces questions de violence. Il faut que tout le monde sache que personne n'a le droit de vie et de mort, ni la femme sur l'homme, ni l'homme, encore moins l'homme sur la femme.
Oui, Mouna, il y a également certains enseignants ou certains hommes tout court qui disent également être provoqués ou même dragués par ces femmes ou filles.
Alors, déjà, je vais un peu continuer sur la même lancée que mes deux sœurs par rapport au milieu scolaire. Au milieu scolaire, il y a des personnes qui ont différents niveaux. Il y a des enfants qui viennent apprendre et il y a des enseignants qui sont responsables d'eux, qui sont responsables de leur sécurité physique, qui sont responsables de leur sécurité psychologique et même morale et mentale. Donc, ces personnes adultes auxquelles nous confions nos enfants ont cette responsabilité de faire en sorte que nos enfants soient bien, qu'ils soient bien psychologiquement, qu'ils soient bien mentalement, qu'ils apprennent ce qu'ils sont allés apprendre à l'école. Et ce que les enseignants doivent aux enfants, c'est la bonne formation. Et les enfants, éventuellement, leur doivent du respect. Alors, quand on arrive à dénaturer cette relation et qu'on le met sur, comme Madame Togo le disait, et qu'on le met sur l'habillement, je le mets vraiment entre guillemets des filles, c'est qu'à un certain moment, il y a eu une rupture. C'est qu'à un certain moment, la responsabilité est sortie du débat. Et je pense que c'est vraiment une question nationale aujourd'hui. Madame Sitan a dit qu'elle a entendu. Moi, j'ai vu. Et j'ai vécu cette situation lorsque j'étais à l'école fondamentale, quand je voyais mes camarades de classe se faire enceinter par des enseignants, ou quand j'ai vu des familles déscolariser la fille pour la donner à l'enseignant parce qu'il l'avait mise enceinte. Donc il y a cette situation. Et souvent, c'est avec l'accord de la société. Et je me rappelle qu'en dénonçant ces situations-là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les enseignants, mais aussi avec les élèves parce qu'ils ne comprenaient pas cette logique selon laquelle les adultes n'avaient pas à abuser des enfants, surtout les enfants qui sont... Enfin, non, juste pas à abuser des enfants. Rien ne justifie la violence. Rien. absolument rien ne peut justifier la violence. On en parle souvent et moi, ce qui me choque par-dessus tout, c'est qu'à chaque fois qu'on dit telle personne a été victime de telle violence, on demande « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait ?» Son mari l'a tuée. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Rien de ce qu'elle pouvait faire ne justifie ce qui s'est passé, justement. Rien ne justifie les violences sexuelles, ni l'habillement, ni les propos que la personne peut tenir, comme rien ne justifie les violences physiques. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans nos familles, est-ce que les femmes sont les seules à commettre des erreurs ? Non. Les hommes aussi. Mais lorsque, par exemple, l'homme qui est le chef de famille, selon la loi au Mali, fait des erreurs ou a des actes d'inconduite, on l'appelle, on le fait asseoir et on lui parle. On lui parle de cela en lui disant ce qu'il a fait, que ce n'était pas bien, en lui donnant des conseils. Et pourquoi ce même traitement ne s'applique pas aux femmes ? Pourquoi on donne ce droit-là à l'homme de corriger, je mets encore entre guillemets, la femme en lui portant préjudice physique ou moral, juste parce que c'est une femme. Et donc, je reviens pour dire que rien, absolument rien ne peut justifier la violence. Et aujourd'hui, il est de la responsabilité de chacun, à commencer par les autorités, l'État, justement de faire valoir cela, que nous sommes des êtres humains. Ça, c'est le plus important. Le garçon doit voir en la fille son égal, une personne, un être humain qui a des droits comme lui. Et la fille doit voir au garçon cet être humain qui est son égal, qui a les mêmes droits et qui doit avoir les mêmes opportunités qu'elle, pour que nous puissions grandir avec cette égalité. Et étant adulte, c'est seulement cela qui peut, à mon avis, corriger cette situation. Parce que vous allez voir, et ces derniers temps, dans le cadre de ces jours d'activisme, je suis beaucoup les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de discours que les gens tiennent. Les gens disent, ne frappez pas les femmes parce que ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes. Mais les hommes aussi sont nos pères, nos maris et nos frères. Je pense que ce discours ne tient pas, ce n'est pas la raison. Mais on ne doit pas frapper la femme parce que c'est un être humain, parce que c'est notre égal, parce qu'il y a une dignité humaine qui doit être préservée. Et il est vraiment de la responsabilité et des communautés et de l'État et des partenaires des femmes, que ce soit dans leur vie privée ou leur vie publique, de veiller à ce que cela soit une réalité.
Vous mettez entre guillemets le rôle de l'homme comme chef de famille. Est-ce que cela veut dire qu'il faudrait également revoir ce rôle ?
Déjà, je pense qu'en début de débat, je disais que nous vivons au Mali et que la plupart des sociétés au Mali sont patriarcales. Et l'autorité religieuse, économique, sociale et même politique c'est détenu par les hommes. Donc, quel que soit l'aspect, on voit à l'homme tout de suite le chef de famille. Ce n'est pas forcément qu'il joue le rôle. Parce que, en fait, quand les gens disent chef de famille, ils mettent un contenu. Ce n'est pas forcément qu'il joue ce rôle-là, que le contenu est là. Mais souvent, on voit juste un homme et on dit qu'il est le chef de la famille. Et malheureusement, à mon avis, très très malheureusement, la loi est revenue sur cette question-là. Est-ce que ça veut dire que je suis en train de remettre en cause notre organisation sociale ? Non, jamais, je ne le ferai pas. Mais je pense que une loi n'a juste pas à dire que telle personne est le chef. Une loi doit plutôt promouvoir le respect, la communication et l'assistance mutuelle entre les conjoints et non faire une hiérarchisation des rôles dans le foyer. Parce que l'appellation chef des familles va aussi avec des responsabilités parce que cette même loi dit que l'homme est responsable de la famille et donc responsable des femmes, des enfants et de toutes les charges de la famille et que la femme éventuellement, si elle a les moyens, peut contribuer. Donc déjà, je pense que ce n'est pas vraiment en faveur des hommes cette disposition-là où on fait comme une alternative que la femme puisse contribuer dans un foyer auquel elle est partie prenante entièrement. Donc je pense que oui, on aurait dû mieux mettre l'accent sur l'assistance mutuelle, sur le respect mutuel, plutôt que sur une hiérarchie des rôles dans le foyer.
D'accord. Madame Mariko, je vous donne la parole tout de suite. Madame Togo, il semblerait également dans la même lancée qu'il y a certains hommes également qui violentent leurs femmes, qui disent qu'ils sont le chef alors qu'ils ne payent pas le prix de convenement et ils mangent très bien chez eux.
Bon. Alors, déjà, la base, c'est que rien de tout cela ne doit expliquer la violence que cet homme-là va faire à sa femme. Maintenant,
La question c'est que pourquoi l'homme va accepter de violenter sa femme, par exemple, et en se basant sur les cultures, la société, par exemple, alors que la société, ces cultures disent que c'est l'homme qui doit prendre en charge la famille et l'homme en même temps accepte de manger la nourriture qu'il n'a pas payée.
J'ai bien compris la question. Maïmouna disait tout à l'heure que dans un foyer, la réalité d'un foyer est différente d'un autre foyer. Les foyers ne sont pas les mêmes. Et croyez-moi que c'est seulement les deux personnes, monsieur et madame, qui sont dans le foyer, qui détiennent la réalité du foyer et qui acceptent de dire ce qu'elles veulent dire. Les deux, ce qu'ils veulent dire. Madame dira ce qu'elle veut dire de son foyer, monsieur dira ce qu'il veut dire. Mais la réalité, c'est entre les deux et peut-être voilà, le bon Dieu qui est là, qui surveille tout ça. Donc, pour moi, que la femme paye le manger à la maison, pour moi, c'est normal si elle en a les moyens. Que l'homme paye le manger à la maison, c'est normal s'il a des moyens. Mais que l'homme se dise chef, violente sa femme parce qu'il est chef, ça ne s'explique pas. On peut être chef sans violenter. On peut être chef, d'accord, peut-être que tu es chef, tu te perçois comme chef, c'est bon. Quand c'est accepté comme ça, cela ne te donne pas le droit d'être violent. Déjà, dès qu'un chef devient violent, pour moi, ton pouvoir, c'est-à-dire je ne perçois pas ce pouvoir-là. Parce que dès que tu as le pouvoir déjà, tu as tout. Celui qui a le pouvoir, je pense que c'est lui qui doit être calme. Parce que tu as ce pouvoir déjà. Pourquoi tu ajoutes la violence à ce pouvoir-là? Donc pour moi, ça ne s'explique pas que la société donne ce rôle à l'homme. On sait, on a tous grandi dans ça. C'est le père qui décide ça, c'est le père qui doit ça, c'est le père. Même si les femmes ont un rôle, mais je vous dis, très important actuellement dans les foyers, parce que les femmes travaillent maintenant. Nous, nous partons au bureau. Nos sœurs sont là maintenant au marché ici, à Medinakura. Il y en a d'autres qui sont en train de faire la bonne. Si elles avaient tout ce qu'il faut à la maison, peut-être pour certaines, elles allaient rester. Mais pour d'autres, elles veulent se battre, elles veulent s'affirmer, parce qu'elles sont des êtres à part entière. Elles sont des êtres à part entière. Même si mon mari est milliardaire et que je n'ai pas besoin d'argent, mais en tant que personne humaine, je veux être utile à la société. Donc, je ne veux pas aussi qu'on donne ce rôle passif à la femme. Genre, c'est l'homme qui amène à manger à la maison et la femme, elle est... Tu sais, on n'évalue pas l'apport de la femme. L'apport de la femme, si on le monnayait, tu vois, ça va coûter très cher et au foyer, et à la société, et aux entreprises, et à l'État. Mais on ne valorise pas. Monsieur, il est au travail. Madame, elle est au travail. Mais madame va retourner tout à l'heure. Elle va faire le manger. N'est-ce pas? C'est free of charge. On ne lui paye rien pour ça. Elle est allaitante. On va dire que c'est le rôle de la femme. C'est vrai, c'est notre rôle. Mais pourquoi, en plus de ce rôle-là, les hommes, vous vous sentez encore, vous avez encore le courage, vous avez encore vraiment la force de venir ajouter là-dessus pour dire « parce que je suis le chef ». Mais qu'est-ce qui vous dit que vous êtes chef? Qu'est-ce qui définit le chef dans ce sens-là? Dans un foyer, qu'est-ce qui définit le chef? Parce que tu as amené à manger à la maison?
D'accord.
Mais une fois qu'on te coupe, c'est plus toi qui amènes à manger à la maison.
Où se situent les responsabilités aujourd'hui, selon vous?
Je pense qu'il y a une responsabilité sociale, il y a une responsabilité culturelle, même s'il y a une très grande déformation de la culture par endroit. Il y a une responsabilité religieuse, je vais être vraiment claire là-dessus, et il y a une responsabilité institutionnelle. Je pense qu'à tous ces niveaux-là, il y a des personnes qui doivent prendre certaines responsabilités pour ouvrir ce débat-là, pour accepter ce débat qu'on est tous des personnes à part entière, d'abord, avant de porter le sexe féminin ou le sexe masculin. À partir du moment où on accepte d'abord hommes, femmes sont des êtres humains et pris voilà, d'esprit, de jugement, de sens, de sentiment, de ressenti. À partir de là, déjà, on aurait fait un grand pas. Mais tant qu'on continuera à réfléchir, c'est lui l'homme, l'autre c'est la femme, et on a une balance qui fait que l'homme, il est, la flèche va monter et la femme, la flèche va descendre. Je pense que là, pour moi, le débat doit commencer là. On est d'abord des êtres humains. Je ne parle pas de homme égal à la femme, ça c'est notre débat. Mais pour moi, les hommes et les femmes, nous respirons le même air. Je pense qu'on est nés de la même manière. On meurt de la même manière. On est d'abord ces êtres-là qui sont là, qui ont des droits. L'homme, il a les mêmes droits que la femme. Je ne veux pas heurter la sensibilité des religieux, mais pour moi, à la naissance, nous venons de la même manière. Il n'y a que le sexe qui nous différencie. Nous naissons de la même manière. Et je pense que face à la mort, je pense qu'il n'y a pas... Je ne crois pas que Dieu dise, lui, c'est un homme, je vais le tuer comme ça. L'autre, c'est la femme, je vais le tuer comme ça. Je pense qu'il faut d'abord ramener le débat à l'être. C'est d'abord l'être humain qui compte. Après, on verra maintenant entre l'homme et la femme. C'est un partenariat. On doit se compléter. On se complète, on n'est pas des... C'est pas de l'affrontement. C'est moi l'homme, c'est toi la femme, je suis plus fort, je suis plus faible. Non, les deux êtres-là se complètent. Pour moi, la complémentarité doit être la base de toute relation humaine. Homme, femme, enfant, jeune, voilà.
D'accord. Madame Haricot, vous avez juste une seconde. Vous avez un projet dans ce sens pour pallier à cette situation, n'est-ce pas?
Alors, nous avons un projet, c'est qui est sûr qu'il ne va pas venir à bout de ce problème-là, mais un projet qui va quand même, qui est en train d'amorcer une grande sensibilisation, une conscientisation des zones concernées par le projet, afin que celles qui subissent, je parle en termes de famille, et celles qui exercent en termes de famille également, pour que chacune prenne conscience de la nature de la violence et du mal qu'ils font à la société. Mais avant de m'avancer aussi dans ce terrain-là, j'aimerais juste parler de la responsabilité sociale. Que direz-vous, Madame l'experte, d'une société où, quand le chef de famille ne vit plus, et qui n'a plus de frères malheureusement, et que le plus âgé de l'homme, le plus âgé en termes de chef de famille, de garçon, du sexe opposé, a par exemple 6 ans, et qu'à 6 ans, il est le chef de la famille, parce qu'il est l'homme. Et ces femmes-là qui se sentent supérieures aux autres parce qu'elles n'ont fait, elles n'ont donné la vie qu'à des garçons. Ou alors ces femmes qui, à la maison, je parle de nous-mêmes, qui à la maison, déjà, commencent à faire la différence entre les filles et les garçons, même les femmes intellectuelles qui décrivent cette situation-là, qui dans nos familles, on se permet... de laisser faire le garçon, parce qu'il est garçon. Si le garçon veut sortir jusqu'à 5 heures du matin, il n'y a pas d'inconvénient. Mais si la fille veut sortir, voilà. Et donc, à qui devons-nous nous plaindre si les garçons, s'il y a cette déperdition, s'il y a cette dégradation de nos mœurs, de l'éducation, de tous les restes, en ce qui concerne les garçons, même si les filles ne restent pas en marche? Moi, je dis simplement que nous vivons dans une situation où nous aimons vraiment nous plaindre de ce que nous vivons en tant que femmes. Mais est-ce que réellement, chacun de nous, si je dis chacun de nous, c'est pas vous, c'est pas Madame Togo, c'est pas de façon générale, en quoi est-ce que nous contribuons à perpétuer ces pratiques-là? Est-ce que ce que nous disons est égal aux actes que nous posons dans nos foyers, en milieu public, etc. Consciencieusement, qu'est-ce que nous faisons pour que cela change? Et en passant, j'ai dit, nous transposons au Mali nos traditions, nos pratiques culturelles à la religion, surtout la religion musulmane. La religion musulmane, en faisant une très bonne lecture, on se rend compte qu'au Mali, tout ce qu'il y a comme pratique qui crée de l'inégalité entre les hommes et les femmes, généralement, ce n'est pas la religion. C'est la transposition de nos pratiques culturelles, de nos pratiques anciennes à la religion. Et c'est ce qui fait que c'est énormément difficile d'élucider et d'arriver à des solutions. Je prends un exemple. À un moment donné, les associations, les organisations féminines se sont bien battues pour le droit de l'enfant né en dehors du mariage. C'est juste un exemple. À l'époque, bien que je sois engagée dans ce combat, j'ai pris quand même un peu de recul, j'ai réfléchi. Parce que les religieux étaient en face des organisations féminines et ça a fait un clash. J'ai réfléchi parce que je savais à l'avance que la religion musulmane prévoit quelque chose pour l'enfant né hors mariage. Et j'ai engagé une discussion avec un groupe de femmes. J'ai dit, mais par exemple, selon, est-ce que vous savez que la religion musulmane prévoit que l'enfant né hors mariage bénéficie de tout ce que le papa veut lui donner de son vivant? C'est-à-dire que le père, il a le droit, il a la possibilité, sur le plan de la religion musulmane, de donner à son enfant hors mariage tout ce qu'il veut. S'il veut, il lui donne tout. Mais c'est qu'il lui a donné vivant. J'ai dit, vu que nous sommes dans un pays musulman, nous sommes dans un pays fortement culturel, si nous voulons avancer dans notre combat, est-ce que nous ne devons pas réfléchir et voir ce qui peut marcher facilement et par ricochet faire passer des choses que nous voulons passer au lieu souvent d'aborder ces problèmes. J'ai fait un ricochet juste pour dire qu'il y a bien des choses que nous pouvons réussir, souvent nous les femmes. Mais la question que je me pose, est-ce que nous en avions conscience? Est-ce que nous réfléchissons réellement, partant des possibilités que nous avons, de nos religions que nous pratiquons? Ça peut être la religion musulmane, la religion chrétienne, etc. Le Mali est un pays laïque.
Est-ce que toutes les mesures sont prises en compte? C'est ça?
Voilà.
Est-ce que toutes ces mesures sont prises en compte, Maïmouna?
Je pense qu'on en avait déjà parlé au tout début. Et je pense que toutes ces mesures ne sont pas prises en compte.
Mais que faire maintenant?
Actuellement, quelles sont les réponses que nous apportons? Moi, sur différentes initiatives, sur le plan professionnel, nous avons eu à travailler sur les questions, toutes les questions que nous sommes en train d'aborder des violences. Et à un moment, nous nous sommes rendus compte que ce qu'il fallait, c'était déjà déconstruire le modèle reçu de comment être une bonne femme et de comment être un homme. Parce que quand le garçon est tout petit et qu'à chaque fois qu'on lui dit « sois un homme », est-ce que c'est forcément pour faire poser un acte qui lui est bénéfique? Ou c'est juste pour poser un acte que la société trouve correct? Les femmes que nous trouvons être des femmes modèles, est-ce que ce modèle de genre féminin, c'est ce qui doit encore continuer? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça va avec les réalités d'aujourd'hui? Donc nous travaillons sur ces questions qu'on appelle les masculinités. Comment travailler avec les hommes pour que les hommes puissent voir une autre façon d'être un homme, pour qu'ils puissent voir qu'être un homme, ce n'est pas forcément être autoritaire, violent, ce n'est pas aller vers le danger, mais qu'il y a une autre façon d'être homme en protégeant les personnes qui sont avec toi, en les respectant, en les aimant, et qu'être un homme...
Il nous reste 1 minute et 30 secondes, 30 secondes pour chacun. Que faut-il faire maintenant?
Et donc, moi, je pense qu'il faut cela, il faut cette déconstruction au niveau social et il faut montrer de nouveaux modèles de femmes et d'hommes. Moi, je pense que ce qu'il faut aussi, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison. Non seulement apprenons à nos filles à être de bonnes jeunes femmes, mais apprenons aussi à nos garçons à être de bons jeunes hommes. Et je pense enfin qu'il y a vraiment cette responsabilité de l'État d'accompagner toutes les initiatives prises par les différents projets et la société civile par des lois et des politiques fortes qui protègent les femmes.
D'accord. 30 secondes à vous, madame.
Alors, je pense que Maïmouna, elle a carrément marché sur ma langue.
D'accord.
Parce que justement, je pense que l'État a un grand rôle à jouer. Elle l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter. Et la déconstruction sociale aujourd'hui, elle est fondamentale. on n'arrivera absolument à rien du tout si nous ne faisons pas cette déconstruction. Parce que l'autre a pris tellement le terrain qu'il faut, pour arriver à quelque chose, il faudrait déconstruire et amener les gens à refonder.
Refonder à créer, encore, voilà, pour à créer, avoir une bonne solution.
Justement.
Pour moi, je pense qu'il y a du chemin qui est en train d'être fait quand même. Il y a toutes ces activistes, femmes activistes aujourd'hui qui s'élèvent pour dénoncer des cas de violence. Nous, pour notre part, dans le programme d'engagement civique, comme on le disait, pour nous, la clé, c'est le renforcement des capacités de la communauté, parce que ça se joue au niveau communautaire. Ça se joue, les cultures, c'est vrai, c'est assez déformé dans les villes, mais dans les communautés, c'est assez ancré. Donc, comment former ces communautés-là afin qu'ils comprennent ces cas de violence, afin qu'ils prennent en charge...
Donc, la formation et la sensibilisation.
La formation, pour moi, la sensibilisation et le dialogue. Mais pour les partenaires, il faut des actions concertées.
D'accord. Merci beaucoup à nos trois invités, Mme Mariko Korotumu-Tera, Mme Togo Sitan-Sissé et Maïmouna Djongunda Dambélé. Je rappelle que le débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC, financé par l'USAID. Merci à nos invités, à la régie vidéo Mamadi Keïta et Gagné Kanté, à la régie audio Philly Dambélé. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Haloud Mouni.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.